Tilt Show, l'émission qui vous évite de péter un câble.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Tilt Show. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, dans notre émission, on a des invités très spéciaux. Mais bon, je ne vous présente plus Boule et Tom, mais deux acolytes, bien sûr.
Bonsoir à tous.
Bonsoir tout le monde.
Dis-moi, Boule, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui ?
Ben aujourd'hui, on reçoit Gabi, du coup, président de la Fédération française de poker associatif. Et on reçoit Quinquin, responsable des Hauts-de-France, c'est ça ?
C'est ça.
Au niveau de la Fédération aussi française de poker associatif.
On en a de la chance.
D'avoir c'est cool, hein ?
Un monde comme ça. On va pouvoir poser plein de questions.
Même celles qui fâchent.
Surtout, bon.
Surtout celles qui fâchent.
Eh bien, on va peut-être commencer par présenter la Fédé. Gabi, tu nous dis un petit mot sur, sur comment ça fonctionne, qui tu es, comment t'es arrivé là. Pas au studio, je veux dire.
Salut. Hein. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis donc Gabi, Gabriel Fischer. Je suis président de la FFPA depuis 4 ans, OCA depuis 2017. Et je joue au poker depuis 25 ans, je crois.
Voilà. On a trouvé un autre vieux.
Oh, un ancien pour moi. C'est
voilà, en ce qui concerne la présentation de l'AFFPA, c'est une association 1901 qui essaye de fédérer autour du poker associatif et de cette belle idée.
Qui existe depuis quand ?
L'AFFPA, c'était anciennement le club des clubs de poker qui a été créé en 2008 par quelques irréductibles joueurs de poker associatifs à l'époque. Ils ont monté, voilà, ils ont voulu rassembler les clubs entre eux en 2008. Et puis petit à petit, la structure a pris son importance et son envol. Et on a changé de nom il y a deux ans et demi, pour devenir Fédération française de poker associatif, qui pour l'instant n'en a que le nom, mais déjà, ça veut dire beaucoup, notamment localement, quand les clubs vont vouloir négocier des salles et des choses comme ça auprès des collectivités locales. C'est plus facile de venir au nom de la fédération plutôt que du club des clubs de poker. Là, il faut expliquer, etc. Bref, donc on a un nom qui fédère. Et puis, on espère évidemment travailler pour aller vers l'agrément officiel.
D'accord. C'est beaucoup de démarches ?
Oui, c'est beaucoup de démarches. C'est long. Il faut monter un dossier, il faut avoir des appuis, il faut... la démarche a déjà été tentée deux fois, et avec à chaque fois, pour l'instant, un refus.
Et des améliorations à venir, des explications pour s'améliorer ou pour améliorer
le dossier ?
Pas toujours.
Pas toujours, donc on y retourne un petit peu à l'aveugle. Alors ça fait longtemps que c'est en pause, donc on va retravailler le dossier, voir si les choses ont évolué. Et puis malheureusement, il faut des appuis politiques, et puis des appuis associatifs également. Et du coup, il faut réunir et... comme on est dans une période un peu instable au niveau politique, ce n'est pas toujours évident actuellement de faire les démarches qui vont bien. Ça concerne un autre sujet d'ailleurs dont on parlera peut-être, mais voilà.
Ok, merci pour ces précisions. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte déjà de tout ce qu'il faut faire pour avoir le statut qu'on aimerait. Déjà le nom, comme tu dis, ça envoie.
Oui, ça parle. Parce que des fédérations françaises, il y en a évidemment beaucoup dans plein de domaines. Donc ça parle et ça aide sûrement localement. Et puis ça permet de réunir et de mieux discuter avec nos interlocuteurs, qu'ils soient, surtout quand ils sont extérieurs au poker finalement. Là, on arrive avec une fédération, ça donne un statut qui parle de lui-même.
Et qui est reconnu au niveau de l'État aussi.
Le nom, oui, mais comme je disais, après l'agrément, c'est vraiment quelque chose de différent. Parce que l'agrément, il permet d'obtenir des subventions, il permet d'avoir une écoute... parce qu'on ferait partie du coup d'un collectif de fédération. Et donc les subventions permettraient ensuite d'avoir des moyens différents et donc d'aider les clubs. Là, le sujet des déplacements pour les demi-finales du CFEPA, par exemple, c'est une question importante pour les clubs. Bah, si on arrive à avoir l'argent et les subventions qui vont bien, on va pouvoir rembourser les clubs sur leurs frais. Et donc il n'y aura plus ces notions de distance difficiles à faire pour certains clubs, etc.
Mais l'agrément, c'est la caution pour avoir une envergure encore différente.
C'est ça.
Actuellement, vous vivez de quoi en fait ? Du coup, vous vivez que des cotisations des clubs annuelles, des choses comme ça ?
En fait, on ne vit que des adhésions des clubs, actuellement 30 euros par an pour un club, et des licences qui sont demandées à chaque adhérent de chaque club.
5 euros par joueur.
5 euros par joueur et par an. Ouais. Et donc, nos ressources financières ne sont que ça, actuellement. Et donc, avec ça, on fait vivre l'association toute l'année dans l'organisation des différents événements, sur les frais classiques, hébergement Internet et autres. Et donc, sur l'organisation, c'est le plus gros, un des plus gros aspects, c'est donc l'organisation de nos deux événements, de nos deux finales, celle par équipe et celle individuelle. Et là, ça demande un peu d'argent pour, parce que nous sommes bénévoles, on a tous un métier à côté. Quoi, et,
oui, il n'y a, a personne qui est salarié.
Il n'y a aucun salarié dans l'association. Et donc, on est tous bénévoles. Et donc, bénévole, ça ne veut pas dire y être de sa poche quand on organise quelque chose pour le bien de l'association. Quoi. Donc, il y a un budget qui est prévu pour héberger, faire manger les gens, leurs déplacements. Et puis voilà, donc ça, c'est déjà une belle somme. Ensuite, on essaye de défrayer les clubs au mieux qu'on peut par rapport à notre budget, du mieux qu'on peut, c'est plus français. Et puis voilà, après, on a d'autres dépenses, mais qui sont un peu annexes à tout ça. Mais voilà, le budget ne sert qu'à ça.
Il n'y a pas de frais fixes, vous n'avez pas de locaux ou... On n'a pas de locaux. Internet, je te disais, les
oui, voilà. Internet. Non, on n'a pas de lieu de locaux.
Le séchocial, ouais.
Voilà. Le séchocial, il est chez un de nous, en fait.
Ouais, chez un de vous, ouais. Mais on n'a pas d'endroit fixe.
Non, parce que on a, en fait, nos réunions, parce que les membres du conseil d'administration, on est 16 membres dans le CA, et nos réunions se font en visio, en fait, puisqu'on est répartis partout en France.
Ouais.
Donc on se parle au moins une fois par mois, un peu plus quand les événements approchent. Donc ça ne nécessite pas de local, et puis évidemment, ça évite des frais également.
Bah super. Du coup, 16 membres, quelqu'un, tu te situes comment, toi, là-dedans ?
Eh ben, membre du bureau du CA aussi, et partie commission développement fédéral.
Fédéral, ah oui, ça en jette.
Et puis aussi référent des Hauts-de-France, du coup. Donc je suis là pour assister, aider, s'il y a besoin, pour tout ce qui est les adhésions, les classements, fin d'année, et...
C'est quoi, c'est un accompagnement au niveau des clubs que tu peux faire, des choses comme ça, sur tout ce qui est affiliation et tout ça ?
Oui, c'est ça, en fait. C'est... Derrière, il y a beaucoup de questions qui reviennent des présidents de clubs en me demandant comment on procède sur le forum ou sur le portail pour...
Tu fais l'intermédiaire, en fait, entre les responsables d'associations et la fédération, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis, je les guide dans le bon sens pour qu'ils aient réponse à leurs questions. Et puis, ça se passe plutôt bien.
T'as un bon contact, en général.
Ouais, c'est ce qu'on dit.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on te pose une question, en vrai, tu sais toujours y répondre, tu trouves toujours la réponse. Donc, c'est quand même...
Ou il invente une réponse, ça, on ne sait pas, monsieur.
Bon, j'essaye d'apporter la bonne réponse.
Très bien. Du coup, vous parliez de deux événements, de gros événements annuels, le CFEPA et le CFIPA, donc la partie en équipe et la partie individuelle.
Tout à fait.
Gabi, tu nous en touches un petit mot. Comment ça s'organise, à quel moment vraiment vous intervenez ? Parce que moi, j'ai l'impression que les CFEPA, ils s'organisent un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu tout seuls, dans le sens où les clubs, ils sont assez autonomes, ils s'hébergent les uns les autres pour faire les tournois, etc. Mmh. À quel moment la Fédé, elle prend...
Alors la Fédé, déjà, elle impose un règlement pour le déroulement de ces compétitions, pour que ça se passe bien. Donc il y a un règlement du championnat par équipe qui est publié tous les ans. Et ensuite, on propose ce logiciel qui permet de gérer les classements. On a un portail de la FFPA qui centralise tous les résultats, et qui permet donc de cumuler au fur et à mesure les points pour faire le classement du championnat à la fin.
Ce qui permet du coup à chaque équipe de voir avec qui elle est en concurrence,
tout à fait, de voir
comment ça se passe dans les autres poules,
les résultats des autres, etc. Donc tout ça, c'est des services qu'on propose au club pour gérer ce championnat. Donc ça demande derrière du travail de développement quand il y a des problèmes, etc. Et puis on intervient... Les organisations se font sur le forum de la FFPA, donc les poules dont tu parlais, l'organisation dans les clubs se fait à ce moment-là. Une fois que les demi-finalistes sont déterminés, c'est à nouveau les clubs qui s'organisent, qui sont qualifiés, qui s'organisent entre eux. Et nous, on intervient donc in fine pour organiser la finale qui va réunir les 16 meilleurs clubs de France. Et là, nous, c'est nous qui nous occupons donc d'organiser la finale, de trouver un lieu, et ensuite de toute la logistique de ce qui va se passer pour cette finale par équipe.
D'accord, tout le matériel.
Alors le matériel poker, c'est le club qui accueille, qui va le fournir.
D'accord.
Après, nous, on gère le tournoi en lui-même, on gère les sortants, etc., le classement sur place.
D'accord. Ça s'est fait, c'est fait par la FFPA. Comme s'il y avait un TD de la FED qui était là ce jour-là. Quoi.
Un FED de, j'ai
un
pas compris.
TD de la FED qui est là
ce jour-là. Ah oui, ils sont même plusieurs ce jour-là. Pour, les TD sont ceux de la FFPA qui font partie du CA et qui officient donc le jour de la finale.
La classe.
Je sais pas. Après, ça reste un bel événement avec beaucoup d'émotions. C'est là vraiment sur le championnat par équipe qu'on voit ce qu'est l'essence du poker associatif, je trouve. Parce que les émotions qui sont ressenties ce jour-là, depuis 2 ans, pour respecter la législation, il n'y a rien à gagner pour les clubs. Malgré tout, y a une envie des clubs d'y aller, de perfer. On joue en équipe, on voit des gros costauds tatoués qui se mettent à pleurer au dernier moment parce qu'ils ne sont pas loin de gagner. Enfin bref, c'est des choses qui sont assez impressionnantes et c'est assez belle à vivre. Et donc c'est là que le poker associatif prend son...
Et vous n'avez pas peur de perdre des clubs justement parce qu'il n'y a rien à gagner pour les clubs
Ça peut arriver. Alors c'est vrai que dans le poker... On joue au poker pour espérer gagner un truc à la fin. Ouais. Il y a une espérance de gain. Maintenant, est-ce que l'enjeu doit être financier ? Absolument.
Non, pas forcément financier, mais je sais pas, des lots pour les clubs ou quoi que ce soit, des tapis, des jetons pour les aider dans la vie de tous les jours, en fait. À part le titre honorifique qui est beau déjà,
beau titre,
on a déjà parlé dans cette émission-là, qui est magnifique.
Voilà, l'enjeu, il est honorifique, ouais. C'est vrai. Mais c'est la chose, le truc à gagner, déjà légalement, on ne peut pas. Là, actuellement, pour le par équipe, on ne peut pas. Donc on
ne
va pas
prendre ce risque.
Même.
Okay.
On ne peut gagner que des coupes, des médailles, si on veut rester dans
Super.
La légalité.
Ouais, toujours le flou législatif derrière tout ça qui fait que.
Il n'y a pas vraiment un flou, on en parlera peut-être. Il n'y a pas un flou, mais il y a quelque chose à suivre qui est assez clair pour nous, puisqu'on, avec Baptiste, qui est aussi membre du CA, on suit la question depuis 2 ans. Les choses à suivre sont assez claires et cadrées. Maintenant, il faut beaucoup d'explications pour les faire passer. Le flou vient du fait qu'une loi est toujours interprétable par un magistrat, et c'est là que ce flou peut naître. Voilà. Donc ça, je reviens sur la partie CFPA. Donc voilà, cette compétition, donc les qualifications se passent toute l'année en France et localement pour se finir à 16 réunis sur un endroit.
16 sur combien de clubs en gros
On est à 110, 120 clubs, je crois, sur l'année.
Pas mal.
Ouais. Oui, c'est pas mal. Et puis la finale par équipe. La finale du championnat individuel, elle se termine donc dans 15 jours maintenant, un peu moins, à Aix-en-Provence.
Elle aura lieu du 29 mai du coup au 1er juin.
C'est ça, avec même un tournoi la veille, le 28 le soir. Un tournoi, un side comme on dit.
Oui,
c'est ça. Donc là, la phase de qualification, elle commence aussi en club, puisque la très grande majorité des joueurs se qualifient sur leur championnat respectif dans les clubs, sur une saison.
Donc, le premier joueur du club selon l'importance
du club.
Du
ouais,
club,
c'est ça.
1, 2 ou 3.
C'est là. Selon le nombre de licenciés dans le club, en fait, on leur attribue un certain nombre de places en fonction du nombre de licenciés déclarés. Donc ils se qualifient sur une saison. Dans ce cas-là, je dis beaucoup. Dans ce cas-là, ils nous communiquent les qualifiés. Et ça représente 340 joueurs.
Okay.
Mais à la finale, ils seront 416, parce qu'on a également un championnat online qui est organisé chez notre partenaire Winamax, où là, il y a 60 joueurs en plus qui vont pouvoir se qualifier online pour la finale. Leur avantage sera qu'ils n'auront pas le buy-in à payer, puisque notre finale, le main event, est payant.
C'est offert par Winamax, du coup.
Et donc les 60 qui se qualifient via Winamax n'ont pas ce buy-in à payer. C'est offert par Winamax. Et on a en plus 16 autres joueurs qui sont qualifiés via les Texas Club Series organisés par Texas Poker, qui est un autre de nos partenaires.
Texas Poker qui fait les croupiers aussi, je crois, lors de vos événements.
C'est eux qui sont notre organisateur de notre finale. Donc c'est eux qui gèrent, ils gèrent les gros événements dont vous avez sûrement entendu parler récemment. Et par ailleurs, ils gèrent tout l'événement là, du mercredi au dimanche. C'est eux qui gèrent... Tout le côté organisation du tournoi.
Bon, du coup, on n'a pas peur pour l'organisation, alors.
Non, c'est Texas Poker.
A priori, ça devrait bien se passer. Les joueurs sont... C'est un des objectifs aussi, c'est de faire vivre à nos joueurs associatifs ce qui se passe sur un tournoi pro, parce que c'est exactement les mêmes conditions. Donc, le meilleur joueur, celui qui gagne le main event, part à Vegas en juillet. Là.
Allez, le package. Là.
Le
Thomas,
package.
Tu vas nous chercher le package. Hein.
Ouais. Donc, j'ai pas de vacances.
Un peu plus de conviction.
Je suis sûr que t'en trouveras des vacances si tu gagnes.
Non.
Donc ça, ce package est offert par notre partenaire Winamax, en plus d'une très grosse dotation aussi, qui est disponible sur notre site.
Qu'est-ce qui différencie le fait que là, en CFIPA, donc en individuel, il peut y avoir des gains, alors qu'en équipe, il ne peut pas y avoir. Est-ce que c'est parce qu'il y a les sponsors, Texas Poker,
non.
Winamax ?
C'est lié au fait que la finale s'organise chez un opérateur de jeux agréé, c'est-à-dire le casino. Et donc là, on est cadré par la loi du casino. Et on peut, dans ce cas-là, avoir quelque chose à gagner à la fin, même si au début, il y a eu un sacrifice financier.
Ok.
Voilà. C'est la différence.
Et pourquoi on ne fait pas les championnats par équipe dans un casino ? Tu l'attendais, celle-ci. Hein.
Parce que ça va forcément coûter de l'argent, puisque jouer gratuitement dans un casino, il faut payer quand même les
ah
croupiers.
Oui, parce qu'il y a un buy-in à l'individuel. Oui. Y a le
donc, buy-in. Dans le buy-in, il y a des frais qui sont prélevés pour pouvoir payer le fonctionnement. Alors, Texas Poker est également payé pour pouvoir organiser ça, mais en plus il y a les frais donc sur le buy-in qui permet donc de payer toute l'organisation de tous les croupiers sur 5 jours. Enfin, c'est une grosse organisation.
Comme dans tous les autres tournois, dans tous les cercles.
Voilà.
Les buy-in qu'on ne retrouve pas effectivement sur le championnat
c'est
par
ça.
Équipe.
Et donc si on organisait notre finale par équipe en casino, il faudrait pouvoir payer tout ça. Mais là, pour le coup, sur nos fonds propres, à moins de à nouveau faire payer les qualifiés pour la finale. Mais on, voilà. Ouais, donc on a, pour l'instant, un entre-deux qui n'est pas si mal. Il y a des projets de pouvoir faire différemment, mais ce n'est pas pour tout de suite.
Tu parlais tout à l'heure de Winamax. C'est un partenaire qui est assez récent, du coup, avec la FFPA.
Carrément.
Comment ça se passe ? Quels sont vos retours là, depuis quelques mois ? C'est quoi, depuis novembre ?
Pour l'instant, quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il peut en dire, mais nous, j'ai l'impression que ça se passe plutôt très très bien.
Ouais,
ils nous accompagnent beaucoup. Ouais. Ils sont très réactifs à nos et attentifs à nos demandes. Donc ils nous accompagnent pour l'instant parfaitement. Quoi. Donc il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan parce que
je
ça fait quelques
la
mois finalement.
Après la
voilà, dans un an, on revient là et on en reparle. Mais pour l'instant, on est ravis de ce partenariat qui a débuté en janvier. Là.
À janvier.
C'est okay. Novembre, la signature du contrat, c'était novembre.
Oui, donc ça reste quand même très récent, effectivement. Ouais. Mais si déjà les organisations se sont bien passées jusque-là pour qualifier, par exemple.
Ah, puis si vous regardez, mais si vous regardez la dotation de la finale qui arrive là, il y a beaucoup de dotations à ajouter. Donc les gens auront à gagner des sous grâce aux buy-in qui ont été payés. Et également une dotation ajoutée par Winamax qui vient de Winamax et de nos partenaires. Fabien Perrault qui est présent offre également une dotation. Texas Poker sur les sides également. Le Florida Family qui est un autre de nos partenaires offre également des choses sur l'événement, pas sur le main, mais sur l'événement.
Ah, pas sur le donc, main, j'ai ma chance pour le Florida.
Exactement, alors. Le samedi soir, il y a un side de Florida avec des réductions à gagner sur les séjours Florida Family. C'est l'avantage d'ailleurs, c'est vrai que c'est une parenthèse, mais tous les sites sont accessibles à tout le monde, licenciés ou pas. Voilà, donc il y a beaucoup de tournois prévus pour les accompagnateurs. Sur cette dotation, Winamax nous accompagne énormément également financièrement sur cette finale pour offrir aux joueurs des packages qui sont vraiment beaux. Quoi. Donc allez jouer du live à gogo.
Ça promet un beau week-end.
Ça devrait, on espère.
Une autre petite question, peut-être pas si petite que ça. La fédération, du coup, tu as parlé de, en gros, 120 clubs en France. C'est déjà beaucoup. Enfin, ça fait une résilience.
Non, j'aurais pu te corriger après, mais il y a 120 clubs qui participent au CFEPA, mais on a 160 clubs adhérents.
Ok. Ah oui, c'est pas tous les clubs qui participent au CFEPA.
Non, certains se concentrent uniquement sur le CFIPA, par exemple, ou profitent uniquement de nos services. Annexe, mais...
Toujours plus, 160 clubs en France, génial.
Et autour de 6 000 licenciés.
Ça fait une belle communauté quand même déjà.
Ça donne une écoute quand on va voir des gens, qu'on leur dit voilà, nous représentons 160 clubs, 6 000 licenciés, c'est pas rien. Et donc on peut avoir une écoute un peu plus forte. Ça se dit ça ?
Oui.
Une écoute plus forte.
Ouais. Encore plus attentive.
Merci.
Voilà. Et il y a d'autres initiatives qui encouragent le poker amateur. D'un côté, j'ai envie de dire heureusement, parce que il faut tout pour faire un monde. Et voilà, on a la LFP, où il y a aussi Red Cactus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les voyez comme des concurrents? Est-ce que vous pensez que vous êtes complémentaires? Est-ce que ça manque de dialogue entre vous? Je sais pas. Enfin, je fais des hypothèses. Hein.
Alors, la LFP est dans le même esprit que la FFPA. Elle défend le poker associatif.
Oui.
On ne les considère vraiment pas comme des concurrents. On a des échanges réguliers avec eux. On avait beaucoup d'échanges depuis 2 ans. Ça s'est un petit peu atténué depuis quelques temps pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici, mais il n'y a rien de grave. Mais voilà. La LFP, pour moi, ce n'est pas du tout des concurrents. Chacun trace sa route selon sa vision des choses, mais les deux structures défendent le poker associatif de la même manière, enfin, dans le même esprit.
Oui, parce qu'après, vous proposez des choses différentes.
Oui, et puis c'est des gens qui sont passionnés, qui sont dévoués au poker associatif pour ce qu'il représente et pour les émotions que ça génère quand on y joue en club.
On avait reçu Soissons, qui était un club qui est affilié aux deux, oui. Et ça n'avait pas l'air de poser aucun souci.
Les compétitions ne sont pas les mêmes proposées non plus.
C'est ça. Donc ce n'est pas compatible de participer aux deux compétitions, à toutes les compétitions proposées. D'ailleurs, on se parle tous les ans pour caler le calendrier, pour pas qu'il y ait des manches qui aient lieu en même temps au niveau local.
Bien,
et national. Donc, il y a quand même des échanges qui sont faits pour que les choses se passent bien pour le poker associatif dans son ensemble. Red Cactus ou Infinite Player, qui est le même genre de structure, c'est une entreprise. Florida Family, pareil, c'est une entreprise. Mais leur public est souvent issu du poker associatif. Donc, c'est le point commun. Mais après, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Mais je ne les vois objectifs. Pas comme des concurrents. Mais ils ont un objectif commercial. Ils veulent gagner de l'argent.
Oui, bien oui.
Voilà.
In fine, pour les joueurs, l'objectif, il est à peu près le même. C'est jouer gratuitement, dans une ambiance conviviale, sécurisée.
Oui, ça, je suis d'accord.
Pouvoir gagner des trucs, un titre de champion de France, un lot pour partir à Vegas.
Du point de vue du joueur, ça se ressemble énormément, je suis d'accord avec toi.
Sachant qu'un joueur Red Cactus peut aussi être un joueur de club, on en voit ça tout.
Oui, c'est majoritairement le cas, je pense. Oui, bien sûr.
Mais beaucoup rentrent par Red Cactus aussi pour rentrer dans un club aussi. Nous, on a vu ça dans notre région, là. Beaucoup de monde sont arrivés au Red Cactus et après, on a découvert le poker, donc ils sont venus dans un club.
Oui, c'est vrai que
ça va dans les deux sens.
Oui, c'est vrai, je pense, c'est vrai.
Mais oui, effectivement, il y a Asso versus Business, quoi.
Les deux peuvent vivre tout à fait ensemble, je ne pense pas que ce soit compatible. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais souvent une différence entre amateur et associatif. On parle des joueurs amateurs, on parle des joueurs associatifs. Moi, la différence que je fais, c'est qu'un joueur pro peut être aussi un joueur de club associatif.
Bien sûr.
Ok, oui.
Mais par contre, j'oppose plus poker amateur et poker professionnel. Là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être les deux en même temps.
Non.
Voilà. Donc voilà pour moi la différence. Hein. L'associatif, c'est vraiment esprit club.
Que tu sois champion du monde ou
exactement,
champion de ton village.
Tout à fait. Et on a beaucoup de joueurs poker pro qui sont issus de clubs associatifs au départ et qui le sont encore. Donc, sur nos finales, on croise régulièrement des joueurs qui sont devenus pros mais qui sont là pour leur club. C'est bien que les deux choses sont compatibles.
Compatibles, ouais, c'est ça.
Voilà.
Oui, quelqu'un de l'équipe de Red Cactus qui me disait à la finale nationale que ça arrive aussi qu'il y ait des joueurs pro ou semi-pro qui fassent Red Cactus.
On a eu Romain Lewis qui est venu sur l'avant-dernière finale par équipe. Il était présent pour soutenir son club qui était qualifié pour la finale. Donc,
Non, mais c'est beau, des joueurs pro qui viennent quand même encore dans les clubs.
Exactement.
Romain Lewis, il est Winamax aussi maintenant. Du coup,
mais il n'était pas Winamax il y a 2 ans. Mais...
c'est ça. Et pourtant, et voilà, c'est un autre club, partenaire. Donc,
c'est cool, ça fait plaisir. Ça veut dire que ça fait vivre tout le poker, en fait. Pas que les amateurs, mais ça donne aussi envie aux pros d'être là, de soutenir. Enfin,
Je pense qu'il y a des émotions qu'ils ne retrouvent dans le poker par équipe. Il y a des émotions qui sont générées que tu ne retrouves pas dans l'individuel, en fait. Même si tu as une team, même si tu as des potes qui te soutiennent dans le raid quand tu es en TF, le fait que les résultats de l'un vont jouer sur les résultats de l'ensemble, ça génère des émotions qui sont folles à la fin.
Après, comme dans tout sport collectif, dès qu'il y a l'effet de groupe, je pense que ça décule ça décuple les émotions et forcément
non, il y a une
le truc recherché, toujours les émotions et
le frisson
du poker qui est là.
Quelqu'un y connaît ça?
Ah oui, pour l'avoir vécu quelques fois avec un copain. C'est sympa.
Je ne rappelle pas les avoir vus souvent.
Moi, ça me fait ça quand je suis à la table de quelqu'un, j'ai le frisson, je sais que je vais mourir bientôt.
Bon, c'est merci, je prends le compliment comme ça.
Bah oui, tiens, quelqu'un, parle-nous un petit peu de ton expérience en CFEPA, en championnat par équipe.
Bah écoute.
Tu joues pour Resson?
Resson, les fameuses guêpes de Resson. Hein.
Qui était en demi-finale, les auditeurs, vous avez bien entendu la dernière fois.
On est passé, donc ouais, on a été en demi-finale et malheureusement, sur les demi-finales, on finit troisième.
Alerte spoiler.
Et bah, bravo à Pumba et le club de eux qui, eux, se sont qualifiés, qui ont dit du coup en finale France.
Ils font partie des 16.
C'est ça.
Des très bons joueurs à eux.
Bah, eux, c'est la deuxième finale consécutive du coup pour eux justement. Et du coup, ouais, c'est quand même c'est pas mal quoi. Ça fait preuve d'une belle régularité.
Tu seras présent pour la finale?
Oui, je serai là aussi. Ouais. Je serai là en tant que staff. Mais
du coup, tu pourras pas soutenir personne.
Bon, on peut toujours soutenir. Hein,
mais... Il n'y a pas des restrictions.
Non, faut pas trop. Ça se voit, mais c'est normal, c'est humain. Enfin, je vois pas. On ne se voit pas empêcher ça.
T'es un peu chauvin. On va rester sur les Hauts-de-France. On veut les voir en haut. Que ce soit eux ou Pumba, on leur souhaite le meilleur.
Ah bah, j'espère qu'ils nous entendent, qu'ils vont tout donner. C'est quand la finale?
Par équipe?
Oui.
C'est à la rentrée, là, au mois de septembre, septembre-octobre. Je me rappelle plus de la date exacte.
Ah oui, on va passer tranquille là avec cette pression.
C'est ça.
Et ça se déroulera où?
Il y a 90% de chances que ça se passe à Vaux-sur-Mer pour la troisième fois, pas consécutive, mais donc vers Royan.
D'accord.
Voilà, pour situer.
Et du coup, un joueur qui était qualifié en finale par équipe et qui change de club, il ne peut plus, du coup, vu que ça se déroule sur deux autres années?
En fait, ça se passe par rapport aux licences de la saison sur laquelle les joueurs se sont qualifiés.
D'accord, ok.
Donc si le joueur a changé de club, il peut jouer pour son club s'il avait une licence. Donc là, ça va être la finale 2025. Donc il faut qu'il ait une licence 2023-2024.
Puisque le championnat s'est terminé à la fin de l'année 2024. Du coup, c'est cette finale-là.
Okay. Attends, je crois qu'on dit une bêtise. Je confonds le CFIPA et le EPA.
Mais la finale de 2024-2025, elle se jouera en 2026, du coup.
Non, se joue en septembre 2025.
Ouais, tout à fait. J'ai dit une bêtise.
Ça coûte rien. Hein.
Oh là là.
En fait, le championnat
c'est
qui.
C'est pas écrit dans ses papiers, il arrive pas, il est perdu. Et voilà.
Le championnat qui se finit là en septembre a commencé en septembre 2024. Oui. Donc il faut une licence de 24-25 pour jouer la finale 2025.
D'accord, ok.
Alors qu'effectivement, les individuels, genre Tom qui va aller à Aix là, à la fin du mois de mai, c'était sur ses résultats 2023-2024.
Exactement. Et donc là,
il y a une année d'écart.
J'ai confondu.
Oups.
Bah, du coup, ça m'a rendu d'erreur.
Ah, mais c'était pas écrit dans ses notes. Bon, du coup, boule, il est perdu.
Il n'y a plus de notes, je suis perdu.
Et du coup, si un joueur avait changé de club, si Tom n'avait pas été au même club cette année, c'était pas grave, il aurait pu quand même aller à Aix-en-Provence au mois de mai, puisqu'il avait sa fin.
Ouais.
Voilà. Ouais, puisqu'il a gagné sa place en finale l'année d'avant.
Ouais, une fois qu'elle est gagnée, elle est gagnée.
Voilà. Ça n'empêche pas d'aller dans un autre club, ou même d'être dans plusieurs clubs. Mais après, il faudra qu'il fasse le choix du club dans lequel il veut participer à cette finale, du coup. Du coup, tu
a été premier.
En fait, tu peux
clubs.
Prendre qu'une adhésion de la FFPA que dans un seul club.
Ah.
Donc, c'est à la personne de choisir dans quel club il veut prendre sa licence.
Ok.
Des cas exceptionnels. La personne qui remporte le championnat de son club ne reprend pas de licence la saison suivante.
Bah, c'est pareil, qu'il soit
coup,
sans licence.
Même
ou
sans licence, il peut quand même participer à la finale.
Oui. Parce qu'il avait une licence, la bonne saison, qui était qualificative pour la finale en question.
C'est ça.
C'est pas intéressant.
Un autre club ou pas de licence, c'est gagné, c'est gagné.
Okay. C'est cool.
Tu joues plus au poker depuis 6 mois,
acquis,
c'est pas
ouais, par contre,
acquis,
ça serait un peu dommage. Eh bien, merci beaucoup, Gabi. Quelqu'un, peut-être quand même au moins une dernière question. quels sont les projets d'avenir pour la FFPA, le poker associatif que vous défendez avec tant de ferveur?
Alors, on a beaucoup de projets, évidemment. Alors, il y en a un qui est en même temps un peu d'actualité, c'est autour de la loi. Il y a une actualité un peu chaude, puisqu'un club...
On en a parlé déjà dans une émission,
tout à fait. Donc, il s'est fait un peu toper. Il est fixé le 18 juin, là. Mm-hmm. On assistera, nous, à l'audience pour voir ce qui s'y décide.
D'accord, après, il y aura quelqu'un du bureau qui sera là.
On sera deux à assister à l'audience.
Super.
En tant que spectateur, parce qu'on est intéressé par le sujet.
Oui, mais c'est bien. Ça, voilà. C'est bien d'être aux premières loges.
Voilà. Après, on n'est pas focalisé sur. Pour nous, ce n'est pas décisif pour le poker associatif. Parce que ce qu'on préconise depuis septembre, si les clubs respectent ce qu'on préconise, il y a peu de chances d'avoir des soucis. Maintenant, on a conseillé aux clubs d'être prudents en attendant de voir ce qui s'y passe, parce qu'on ne sait jamais, comme on dit. Mais bon. Donc, on est en train de travailler, nous, et on souhaite faire modifier la loi, finalement. Puisqu'il y a une exception, il nous semble, en tout cas, du poker associatif dans son fonctionnement. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, on veut faire modifier la loi. Donc, il faut qu'on trouve des appuis politiques qui seront prêts à aller défendre des amendements pour modifier la loi. Donc, ça, c'est une démarche lourde et, pareil, qui va prendre du temps. Mais ça fait partie de nos objectifs proches, là. Enfin, on est dessus encore en ce moment, ouais. On est en train de nouer des contacts. L'agrément national, dont on parlait tout à l'heure, c'est bien sûr un gros projet pour pouvoir toujours arriver à fédérer et à officialiser notre fonctionnement. On va travailler sur nos compétitions, on va essayer de les faire évoluer, les développer, proposer d'autres choses peut-être. On est sur ça également actuellement.
Oui, ça me donne envie de savoir.
on a toujours du mal à annoncer des choses, parce que si ça ne se fait pas pour une raison ou une autre, on va aussi créer de la déception, donc ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, on fait tout, évidemment. On est aussi tous joueurs. Hein. Les 16 connaissent le poker associatif. La plupart sont dans des clubs. Donc, on pense être représentatif et avoir les idées qu'il faut pour avancer. Mais donc, on n'a pas décidé. Donc, on n'annonce pas tant que c'est pas fait. On a également une démarche de développer le corps arbitral pour avoir des arbitres officiels de la FFPA. Donc, ils sont en train de passer. Enfin, on a déjà des TD officiels qui ont passé des examens, on va dire.
Ce que j'allais dire, l'année dernière, vous aviez proposé déjà ça.
C'est toujours en cours. On fait évoluer la démarche d'ailleurs pour pouvoir les désigner en tant que TD officiel. On va développer ce pan-là. Toujours dans le cadre du développement d'une fédération hein, qui a ses propres arbitres également. Et puis on a un projet international puisqu'on a été choisi par la WPF, la World Poker Federation, qui a, elle, pu faire reconnaître le poker comme un sport de l'esprit au niveau international par l'IMSA. Donc le poker est
comme
officiellement un sport,
comme les échecs, les dames,
comme tous ces jeux-là. Donc le poker est un sport de l'esprit reconnu officiellement. Et donc on a été choisi pour représenter la WPF et cette vision du poker en France. Et donc on a des projets avec eux. Ils nous ont demandé des choses à faire cette année, dont on parlera également au moment venu. Mais
quand un championnat du monde alors?
C'est dans les
tuyaux,
c'est dans les
papiers.
C'est vraiment voilà. Donc vous voyez, tout ça est lié finalement, mais tout ça va dans le même sens qu'au niveau de l'associatif, ça donne des frissons quoi.
Mais je suis en train de me dire, si on faisait les championnats par équipe et qu'on dit que les trois premiers champions de France par équipe, ils vont au championnat du monde par équipe, ça serait encore un truc.
Et si on a l'agrément, on a des sous, on peut les envoyer. Sans se poser de questions, enfin... Donc ouais, voilà. Évidemment que tout ça donne envie. Hein. En tout cas, nous, de notre côté, on a envie.
Même plus de l'envie, là, ça devient du fantasme.
Ça fait rêver.
On est plus proche de la réalité que du fantasme.
C'est ça qui est beau.
C'est bien ça, ouais.
Magnifique. Ben, en tout cas, ce sont de très très beaux projets. Hein. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai des frissons, ça me donne envie de jouer, là, ça y est.
Pourtant, il fait pas froid dans le studio, je vous promets.
Non, pas du tout.
Peut-être qu'il n'y aura rien à gagner, en plus. Mais pourtant...
Ouais, et pourtant on a envie en fait, c'est vrai.
Ouais, mais le titre et le nom fait rêver en fait, c'est ça déjà.
Voilà. C'est super en tout cas d'avoir été contacté par ces instances-là et faire plus de choses.
C'est une certaine reconnaissance aussi, je suis d'accord. Oui.
Ça appuie tout ce que vous faites
dans une démarche,
par ailleurs. En
ouais.
fait. Donc ça va dans le bon sens.
Je crois.
Un dernier mot ?
Bah écoute, tout a été bien dit, je pense, là, on est pas mal.
Moi, oui, j'appuie le rôle de quelqu'un. Quelqu'un, il est un excellent, enfin, magnifique ce qu'il fait dans les Hauts-de-France, mais nos référents régionaux sont vraiment le lien. Et donc, je veux souligner ce rôle-là. On a des liens, nous, numériques, avec Internet. Mais c'est jamais pareil qu'un vrai lien, une présence sur place, dans les clubs, ça n'a pas de prix. Donc, on a une élection en cours. Enfin, les gens peuvent se porter candidat actuellement pour être référent régional de leur région. Ils seront ensuite élus par les clubs de la région en tant que référent régional de la FFPA. Donc, il ne faut pas hésiter à venir se renseigner, à se présenter, à vous rapprocher de vos responsables de club pour qu'ils nous donnent votre nom. Il y aura des élections. Mais ce rôle-là, il est primordial. Donc, c'est pour ça que je voulais appuyer dessus.
En Hauts-de-France, on laisse quelqu'un faire. Hein.
Ouais, non, mais il fait ça.
Magnifique, il a dit, président.
Ouais, je vais appeler. Je le remercie pour les mots.
Non, mais c'est sincère. C'est sincère. C'est pas parce qu'il est là.
Ah ouais, même s'il n'était pas là, tu l'aurais dit.
Ouais, si, quand même.
Ben bravo, et puis ben le mot est passé, du coup,
j'espère,
si vous avez envie de vous présenter. Ouais,
n'hésitez pas à nous contacter. Ouais.
C'est parti. Merci beaucoup pour votre présence, on vous garde quand même jusqu'à la fin de l'émission, on a d'autres rubriques qui arrivent très vite.
Du poker.
Et nous revoilà sur Graphite dans le Tilt Show avec les clés du poker. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique que franchement tous les joueurs aiment faire, ont envie de faire, mais qu'on n'a pas le droit de faire.
Qu'on n'a pas le droit de faire, et en fait, très peu de joueurs aussi connaissent le terme, je pense déjà. On va parler du rabbit hunting.
C'est là que la devinette arrive.
C'est l'article 3.
On va demander l'article 3.6 de votre règlement.
Moi, je l'ai.
Du coup,
ah, quelqu'un, on a séché quelqu'un.
Non, je l'ai pas.
On a posé une colle. On a réussi à y poser une colle, aïe.
Gabi, tu peux nous dire ce que c'est alors, du coup?
Alors, je vais prendre des précautions. Oui. Il me semble qu'il s'agit de dévoiler les cartes. Qu'est-ce qui serait sorti si j'étais rentré dans le coup? Si on était allé au bout du coup, qu'est-ce qu'on aurait vu comme carte?
Exactement. Si on prend un exemple, par exemple, on est deux joueurs dans un coup, il y a le flop qui tombe, je fais une mise et le joueur en face se couche, donc le coup est terminé en fait. Et il y a souvent des gens sur le côté qui demandent « Oh, est-ce qu'on pourrait pas juste voir les dernières, comme ça, pour le fun, ou juste pour savoir ce qui serait tombé ?» Ben en fait, c'est ça, quoi. C'est le fait de dévoiler les deux dernières cartes, comme tu l'as bien expliqué.
Voir les cinq.
Et du coup,
même voir les
dernières. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, mais sinon de dévoiler les cartes en fait qui ne sont pas tombées quand le coup est terminé.
Et voilà, messieurs.
Et ça, du coup, au poker.
C'est interdit.
C'est strictement interdit.
Alors pourquoi c'est interdit?
Pourquoi c'est interdit? Là, tu me poses une colle, par contre.
Chacun son tour.
J'avoue, je lis les règlements du poker.
C'est vrai qu'on dit.
Mais après, les explications de comment ça elles sont arrivées, je ne les ai pas. Je t'écoute.
C'est une perte de temps. On joue à la cloque, quoi. Donc, c'est déjà stressant parfois au niveau du temps qui passe. Donc, ça va faire perdre du temps. En plus, tout le monde n'a pas forcément envie sur la table de voir ce qui serait sorti. Et donc, il faudrait demander à chacun, est-ce que tu es d'accord? Enfin bref, c'est, je pense, surtout une perte de temps par rapport à ce qui...
Je suis d'accord. Moi, je suis un joueur qui est horreur, justement, de voir les cartes... qu'on dévoile les cartes qui ne sont pas tombées, quoi. J'ai horreur de ça. C'est un truc, ça peut me faire tilter dans une partie.
Voilà. Après, il faudra demander à nos TD officiels si
on se trompe. On le saura pour la prochaine fois.
Mais d'où vient ce nom, rabbit hunting? C'est un nom qui existe, j'imagine, sur les règles américaines.
Ouais, je pense aussi. Ça,
la chasse au lapin.
Troisième colle. On a réussi à faire tout le monde, du coup, c'est bon.
Ça nous a fait assez rire quand on a lu le règlement. Du coup, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas parler du rabbit hunting?
On découvre comme ça des termes, des mots qu'on n'emploie pas au quotidien, finalement, dans le poker. Pourtant, on est...
Parce que dans tous
ça
les
fait
clubs,
un moment qu'on joue,
dans
mais...
Dans tous les clubs, tout le monde demande à voir les cartes, on va pas se mentir.
Ouais.
On va dire, dans 90% des cas, on demande voir la...
C'est ça, puis ça reste convivial.
Oui, non, mais c'est ça, ouais.
Il y a même des joueurs qui préfèrent jouer sur Winamax et pas sur PokerStar ou BetClick ou je ne sais quoi. Parce que sur Winamax, on peut voir les cartes.
C'est vrai que maintenant, tu peux voir les cartes.
Voir systématiquement
d'ailleurs, ça a,
les cartes.
Ça a coupé. Il me semblait que les cartes étaient tirées au sort, au flop, à la turn et à la river. Donc ça ne servait à rien de voir les cartes qui allaient sortir. Et du coup, c'est vrai que depuis qu'il y a cette option, apparemment, les cartes sont tirées dès le début, même le online.
D'accord, ok.
Oui, ils les inventent pas.
Je vous ai perdu.
Non, je comprends ce que tu veux dire, mais ouais.
Oui, l'algo les tire.
L'algorithme.
Moi, j'avais cru comprendre que c'était tiré à chaque fois.
Avant, c'était à chaque fois. Ouais. Dès que la moindre action que chaque joueur faisait, Et à la fin,
générer une carte aléatoire.
Maintenant, c'est tiré à l'avance. Ouais.
Tiré à l'avance.
Ou alors on nous ment, mais peut-être que c'est des cartes qui sont.
On va pas rentrer dans ces débats-là.
Je vais
tricher, pas tricher, jouer sur Internet. Je crois que sinon, on n'est pas prêt de finir l'émission aujourd'hui.
Mais voilà, c'était le rabbit hunting. Ça me fait trop rire.
La main parfaite du Tilt Show.
Et pour la main parfaite, aujourd'hui, on va encore avoir une paire en main. C'est la troisième semaine d'affilée. On a une paire en main. On est quand même bien servi au Tilt Show, hein, je vous le dis.
Alors aujourd'hui, on va vous expliquer le contexte qui est arrivé à notre cher boule il y a quelques années.
Ça remet pas.
Non,
il y a 20 ans. Hein, c'était sur une room qui n'existe plus aujourd'hui.
Ah. Donc nous sommes en TF pour une qualification au WPT Marrakech sur une room qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. On va pas la nommer du coup. Les plus anciens s'en souviendront pour cette room.
Ouais. Du coup, nomme-la.
Poker, hein,
c'est
poker.fr.
C'était poker.fr.
Poker.fr, très grand.
Ah, c'est vieux.
Il reste 8 joueurs pour 6 pactages WPT.
6 packages.
Oh, moi j'ai un package.
Il part avec son pactage.
Moi je pars avec mon sac à dos et je vais tout seul, je donne personne.
Ça devait être beau à Vegas, dis donc.
Donc nous avons le deuxième stack de la table, environ 40 blindes, et nous avons 3 joueurs short à moins de 10 blindes. Je suis UTG et j'ouvre les rois. Encore. Après les dames, les valets, les rois maintenant. Donc j'ouvre 3 blindes, tout le monde fold sauf la big blind qui complète, on va dire.
C'est ça.
Donc on est 2 dans le coup.
Sachant que la.
On est 2.
La big blind nous couvre. Nous sommes les 2 gros stacks de la table.
En fait, on est 2e en stack et il n'y a que lui qui a plus de jetons et c'est le seul qui nous colle. C'est sympa.
Ouais, c'est sympa.
Déjà, c'est un peu la loose, mais bon. D'un côté, on est content.
On a une paire de rois quand même, ça va.
On est content d'être payé ou on n'est pas content d'être payé?
On est content d'être payé ou pas avec les paires de rois sur Big Blind?
Pour l'instant, tout se passe bien.
Mais ça te reste les mêmes pour l'instant, non? Donc,
le flop, on est bien. 3 de pique, 3 de cœur et roi de cœur.
Allez, un petit brelan.
On est bien. Full déjà, non?
On a full. Ah oui.
Full flopé, impeccable. Full pour nous. Tout se passe bien.
Donc notre ami Boule check de la grosse blinde.
Non, je veux pas un check.
Non, check de la grosse blinde.
Check de la grosse blinde. Je parle de moi avant.
Donc check de la grosse blinde. Boule envoie 7 big blinds, ça veut dire le pot. Le joueur en big blind fait all-in. Que feriez-vous en ce moment? Quelqu'un?
Bon, là, je crois que t'es tombé sur un setup où tu peux pas folder en fin de compte. S'il a les 3, bien joué à lui, mais moi je paye tous les jours.
Il y a quand même une possibilité de flush, hein, parce qu'il y a 2 cœurs sur le board.
Mais t'as full.
Oui, oui, oui.
T'as full, la flush, c'est pas grave.
La seule main qui peut
mais moi j'ai vu que j'avais brelan déjà, donc on n'y est pas.
Les 3 ou les as.
Ça explique peut-être
quoi,
pourquoi t'es pas sur la finale finalement.
Il y a un as derrière quoi.
Full. Du coup, en cette période, tu as fait quoi?
Bah attends, on va laisser aussi Gabi répondre. Qu'est-ce qu'il ferait là-dessus?
Excusez-moi. Bah, y a pas grand-chose qui nous bat finalement. Donc, si t'as, en plus, t'as pas d'historique sur lui. Enfin, je sais pas si t'as un historique.
Si on a un historique, c'est un joueur qui joue, on va dire, classique. Il n'est pas hyper serré, mais il a une range basique, quoi. C'est...
Pour moi, avec les As, il te serait revenu déjà dessus pré-flop. Donc je le vois pas avec les As. Donc après la seule main qui nous bat c'est les 3. Ça reste possible, mais bon, pourquoi est-ce qu'il ferait tapis avec les 3 à ce moment-là s'il veut te prendre
des
jetons?
C'est Boule qui fait tapis.
Non.
C'est la big blind. Moi j'ouvre à la hauteur du pot et c'est la big blind qui me revient dessus.
Donc pourquoi est-ce qu'il enverrait tapis pour te faire fuir s'il a carré? Pour moi t'es largement devant. Enfin je pense que je paye le tapis. Enfin. De ma réflexion.
Moi je paye tout, donc j'y vais. Hein.
Malheureusement, même moi je paye, mais. Ouais.
On imagine que ça s'est mal fini vu que ça t'a traumatisé.
Fini, hein. Du coup,
bien sûr, moi à cette époque-là, en plus, je débutais le poker, donc j'étais complètement inexpérimenté, j'ai même pas réfléchi au carré, je me voyais le roi du monde marcher sur la table avec mon full flopé, impeccable, hein, je call instant. Et le turn 1-3, la river 1-3.
Il avait un as.
Et il a un as. Il a as dame off.
C'est horrible.
C'est encore pire que ce que je pensais.
C'est horrible.
Okay. Il a as dame off.
Il bluffait total.
Et il partait en bluff total. Et
bon, après, t'as mis au flop. Si tu me dis que t'as mis le pot, j'aurais peut-être pas mis le pot non plus au niveau du premier pareil que tu fais au flop.
T'aurais pas mis le pot en jouant maintenant, mais il y a 20 ans. Ça jouait comment il y a 20 ans?
Ah, peut-être, ouais.
C'est ça, quoi. C'était...
Les manières de jouer ont tellement évolué en plus.
Mais bon, je pense que moi aujourd'hui, par contre, c'est ce que je, en refaisant la main pour préparer l'émission, justement, c'est ce que je me disais. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'enjeu qu'il y a derrière, les short stacks qui à la table, il y a 3 short stacks, il y en a que 2 à sortir.
Pour avoir le.
Je pense que je peux trouver un fold sur en me disant il a paire de 3 et.
Franchement, je...
Avec le montant de l'enjeu et la pression, certes, si on gagne cette main-là, on se met énorme, mais aussi, il y a le risque de sortir, alors qu'il y a 3 joueurs qui sont à moins de 10 bébés et qui sont obligés d'envoyer, même avec des jeux middle, entre guillemets. Du coup, il y en a bien qui va faire une erreur à un moment. On a quand même pas mal de blindes, on a 40 bébés devant nous, on a de quoi... On a
quel
quoi
moment du tournoi?
Bah, du coup, on est en TF. Hein, et il reste 8 joueurs pour 6 packages.
T'as vraiment pas eu de chance, mais si tu gagnes le coup, ce qui lui est arrivé à lui...
Après,
sur la TF, t'es quand même plutôt bien après, donc... Je trouve pas de fold. Enfin, je sais pas qui pourrait trouver un fold sur ce coup-là, mais
après,
peut-être au jour d'aujourd'hui,
pour orienter peut-être par rapport à ce qui t'est arrivé.
Une vieille serrure pourrait trouver un fold.
Ouais, justement, avec ces expériences-là qui me sont arrivées dans ma vie, justement, où je me dis, j'avais juste à patienter quelques mains, si ça se trouve, pour.
Non, mais tu vois,
c'est pas, on va pas gagner un tournoi là. Il y a 6 packages, donc il y a 6 places en fait.
C'est ce que j'allais dire. Là,
on joue pas pour la gagne.
Peut-être après, tu as déjà engagé 10 blindes quand même dans ton.
10 blindes, il te reste 30 blindes.
Tu sais, même un short qu'à 10 blindes, il va vite doubler à 20 blindes. C'est les coups qu'il faut que tu prennes pour quand même passer le...
En l'occurrence, en plus, tu as pris la bonne décision sur le flop.
C'est ça.
Tu étais de l'argent.
Ouais, bah, quand je vois son jeu, je me vois déjà à Marrakech, moi, pour être honnête. Hein. mais ouais, c'est...
C'est le poker.
C'est le poker. Ça forme.
C'est ça.
Là, adieu Marrakech.
Promis.
Adieu Marrakech.
Promis, il n'y aura plus de paires dans le... Tilt chaud.
Ah bon, on fait pas les as la prochaine
non,
fois.
Non, on joue plus.
On les a déjà fait.
Ah oui, c'est vrai, on a fait
toutes les grosses paires. De toute façon, maintenant, on est tranquille.
Ah oui, on a fait les valets. Non, c'est la quatrième.
On va jouer les suites déconnectées. On verra bien. Au moins, il y aura de la bagarre dans le studio.
En tout cas, tu vois là, on aurait tous fait comme t'as fait.
On a quand même réussi à trouver enfin une main où tout le monde est unanime sur la façon de faire. Quoi, c'est pas mal.
Non. Tout le monde a perdu. Adieu Marrakech pour tout le monde.
Tout le monde reste à la maison tranquille cet été, c'est
ça. Oui, parce que on dit tout le monde a perdu, mais la dernière fois que notre animatrice, elle a fait une émission radio concurrente, elle a gagné, elle. Dans la tête d'un fiche, madame.
Ah ouais, RMC Poker Show. Je pense que c'était ma plus grosse fierté. C'était pas d'avoir présenté mon livre et tout, même si j'étais très contente de le faire. C'est qu'ils m'ont demandé de passer en premier. Quand on est arrivé à la rubrique dans la tête d'un fiche, alors que j'étais, je pense, la moins expérimentée du plateau. Et j'ai donné mon avis, et à la fin, je gagne le coup. Et à chaque fois que j'ai donné mon avis, j'étais très proche de ce que le pro disait. Sauf à la fin où le pro a foldé, et moi j'ai dit, ben non, je continue, je paye. Et je gagne le coup, et là je me suis dit, ouais.
Bravo. Ça...
voilà, c'était, je l'ai dit, je suis contente. C'était ma plus grosse fierté, c'était ça. Cool. Bon, on va passer à notre dernière rubrique.
L'écho des tables.
Eh bien, après avoir évoqué dans la tête d'un fiche du RMC Poker Pro, on peut revenir sur une émission YouTube que j'imagine tout le monde regarde autour de cette table dans le studio de Graphite, dans la tête d'un pro. Qui n'a pas déjà regardé quelques épisodes dans la tête d'un pro?
Peut-être Boule, il a Internet, on ne sait pas s'il l'a, il a peut-être encore en Minitel.
Non, Red Boule, il fait des streams. Et
non, mais moi, du coup, comme je prépare mes émissions, j'ai été regarder ce que c'était cette semaine. Mais en effet, je ne regarde pas toutes ces émissions. Du coup, j'ai découvert que cette semaine ce que c'était. Et j'ai trouvé l'émission assez sympathique, quoi, en fait. J'ai regardé 3-4 épisodes où vraiment on peut se mettre, du coup. On accompagne le joueur professionnel avec toutes ses pensées, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense en fait
Pourquoi ouais. ils jouent le coup
Pourquoi
comme ci ou comme ça
J'ai trouvé ça vraiment bien fait, quoi. En tout cas.
Quelqu'un a un avis ?
Non, c'est très très bien fait comme vidéo, je trouve. Et comme il le dit très bien, c'est qu'on voit, on peut se mettre à la place du joueur, et puis on s'identifie un peu à lui, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là du coup, etc. Et puis il y a des belles images, ça fait rêver. Enfin, voilà, donc c'est très très bien fait comme émission, je trouve ça.
Moi j'aime bien aussi, mais alors
c'est
pas une grande nouvelle,
un
mais je ferai jamais comme lui. Hein.
Non mais le problème cette année dans cette saison, c'est la voya.
Eh oui. Ah oui. Avant
voya,
on avait le droit.
Vraiment. S'il vous plaît, remettez-nous les vraies voix des joueurs et les traductions. Tant pis, on va lire, mais
ça,
les voya, c'est horrible.
C'est assez monotone. Alors c'est marrant parce que par exemple, je prends l'exemple de David Iquitaille, qui est un joueur français, qui a quand
Belge.
Même...
Belge.
Francophone, pardon. il a quand même une voix assez monocorde, assez spéciale, mais assez monocorde. Enfin, il ne fait pas de grandes explosions de voix quand il explique des choses, quand il parle en général. Mais voilà, c'est sa voix, on la reconnaît en plus. Mais quand c'est une IA, c'est flat.
Mais en plus, il faut quand même dire que c'est des voix off. Du coup, c'est des voix qu'ils enregistrent en studio, quoi, par-dessus. Quoi. Ouais. Donc, ils pourraient travailler au niveau du son avec les vraies voix, quand même, des personnes.
Bah, l'IA, ça vient détruire le truc.
Alors là, en l'occurrence, justement, ils ont fait travailler l'IA parce que c'est la vraie voix d'Adrian Mateos, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris sa voix et ils l'ont fait parler en français. Donc quand il parle en français, c'est sa vraie voix. C'est ça, voilà, c'est la même voix qu'il a que quand il parle espagnol. Donc au début c'est très perturbant. Ils ont peut-être amélioré au fur et à mesure. Ils ont parlé dans la RMC Poker Show il n'y a pas longtemps.
C'est un peu amélioré.
Et même des fois des accents québécois qui sont bizarres. Moi, je trouve qu'on s'habitue au fur et à mesure.
Oui,
mais
si ça s'améliore au fur et à mesure.
Mais l'IA est aussi fascinante qu'effrayante. Donc.
Mais les premiers épisodes, j'ai trouvé que c'était horrible.
Les premières, on a été choqués.
En fait, je trouvais que ça perdait beaucoup de son charme. Au lieu de rentrer dans la tête de quelqu'un, on a une voix toute flat qui parle d'une voix comme ça, toute monocorde. En fait, ça, c'est vraiment l'émission parfaite pour dormir, quoi, du coup. Ce qui n'était pas vraiment l'idée, je pense. Donc voilà. Bon, si ça s'améliore, c'est pas mal. Mais quand même, il n'y a rien de tel que le vrai joueur dans sa tête à lui qui nous parle. Qui nous parle, c'est ça, en fait.
Ça fait aussi le charme de l'émission, c'est d'avoir vraiment la voix du joueur, le vrai joueur qui parle et qui commande son coup, ce qu'il a ressenti à ce moment-là, quoi.
Je peux rebondir juste.
Oui.
Si tu avais eu Adrian Mateos qui parle avec sa vraie voix en anglais ou en espagnol, de toute façon, tu aurais lu les sous-titres. Est-ce que tu aurais été vraiment dans le coup avec lui?
Oui.
Alors que là, il te parle en français.
Ouais, mais. Ah, moi, je préfère l'accent, moi.
Je suis pas d'accord, ça reste.
Mais tu lirais les sous-titres.
Ouais, je lisais les sous-titres, mais.
Donc, voir en même temps le sous-titre, le coup se dérouler, etc.
Enfin,
je sais pas.
S'il parle en espagnol, je vais mettre les sous-titres. Après, s'il parle en anglais, vraiment, à la table, ça va, normalement.
Après, t'as la forme de la façon dont il le dit aussi. S'il est sur le ton énervé, sur.
C'est ça, ouais, voilà.
Ça te permet quand même de lire avec la même sensation, la même force de lui qui le dit, quoi, en fait.
Ouais. Mais après, le fait d'avoir des différentes intonations, en fait, parce que là, comme c'est une IA, finalement, les intonations, comme disait Aurore, c'est un peu monocorde. Et vraiment, d'avoir les intonations, de la façon de parler du joueur et tout, je trouve que ça amène du charme, quand même.
Mais en tout cas, c'est une très, 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 très belle émission. N'hésitez pas à la suivre sur YouTube.
Pierre Calamusa, je crois, en ce moment.
Oui.
On apprend des trucs.
Dans le 10 000 six-packs. Il arrive bientôt à la fin, je pense.
C'est dur de ne pas aller voir ce qu'il a fait. Parce que...
bah on le sait, mais bon, on ne va pas le voir.
On attend qu'il nous explique.
Le babit d'Adrian Mateos, il est énorme quand même. Bref, pardon.
Énorme. C'est bon pour nous.
Moi, je sais, mais Boule, il a son petit message à faire avant la fin de l'émission.
Toujours le petit message.
C'est important.
On aime le poker, mais on ne met jamais son portefeuille à l'envers. Et du coup, on rappelle que les jeux d'argent, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et que vous soyez directement ou indirectement concerné par un problème de jeu excessif, vous pouvez contacter le 09 74 75 13 13, disponible 7 jours sur 7, de 8h du matin à 2h du matin.
Ne jouez que ce que vous pouvez perdre. Ce qu'on m'a toujours expliqué.
C'est ça.
C'est le président de la Fédé qui vous le dit, mince. Merci, un grand, grand merci, Gabi et Quinquin, pour votre présence. C'était très agréable de vous avoir dans le studio, d'avoir répondu à toutes nos questions, même celles qui fâchent, mais je ne vous ai pas trouvé tellement fâchés. Hein.
Non, il n'y a pas eu de vraies questions qui fâchent, donc ça va.
On aurait pu pousser un peu. Hein.
Merci pour votre accueil, en tout cas.
On n'aurait plus.
On est venu à Compiègne, quand même.
Ah oui.
Merci de l'effort.
Gabi.
Je viens de Clé-Souilly, en Seine-et-Marne. J'ai une petite heure. Mon fils est à l'UTC, donc je connaissais un peu aussi le coin. Mais,
voisins,
mais voilà. Oui, oui, ça me... Mm-hmm. Nickel.
Quelqu'un t'es un peu plus près.
Et, merci pour votre accueil, c'était top.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne fin de week-end à tous.